Vous écoutez, on lit pour vous.
Non, l'efficacité des produits naturels contre la dépression n'a pas été démontrée. Un texte de l'agence Science Presse paru dans Bel Âge. L'idée de traiter la dépression avec des produits dits naturels n'est pas nouvelle. Mais le détecteur de rumeurs a constaté qu'après toutes ces années, on ne sait toujours pas grand-chose sur l'efficacité et la sécurité des produits recommandés. Une solution de rechange très populaire. Pour combattre la dépression, plusieurs recommandations reviennent couramment. Se changer les idées, mieux dormir, éviter l'alcool, réduire le café, etc. Mais plusieurs recommandent aussi des traitements dits naturels dont la popularité s'explique en partie par le fait que ces produits sont facilement accessibles, soulignait en 2021 le Centre national pour la médecine complémentaire et intégrative, NCCIH, une agence du gouvernement américain. En fait, dès 2017, une étude réalisée aux États-Unis concluait que près de 40% des adultes souffrant de détresse mentale modérée avaient eu recours à des médecines alternatives et complémentaires dans les 12 derniers mois. Plusieurs sites, de même que des boutiques, font ainsi la promotion d'antidépresseurs naturels. Par exemple, le médecin allergologue Pierre-Éric Hordé affirme dans le magazine français en ligne Le Journal des femmes que des alternatives naturelles particulièrement efficaces, sans effet secondaire, existent dans la prise en charge d'une déprime passagère, voire d'une dépression moyenne à modérée. La croyance est également alimentée par la tentation chez certaines personnes souffrant de symptômes dépressifs de se traiter elles-mêmes plutôt que de consulter un professionnel. Mais peu de recherches. L'utilisation des antidépresseurs naturels est toutefois loin de faire consensus dans la communauté scientifique. C'est que la plupart des produits de santé naturelle n'ont pas été étudiés rigoureusement, soulignait en 2021 le NCCIH. Ceux qui l'ont été sont le millepertuis, les suppléments d'oméga-3, la S-adénosylméthionine, SAM-E, et le safran. Il existe également quelques données sur le L-méthylfolate, le millepertuis. C'est l'un des produits de santé naturelle les mieux documentés pour le traitement de la dépression, soulignait en 2021 des chercheurs américains qui se sont intéressés au traitement intégratif pour soigner la dépression majeure. Il agirait directement sur les récepteurs de la sérotonine, ajoutés en 2016 des chercheurs canadiens dans un article sur les directives cliniques pour le traitement de la dépression. Une méta-analyse réalisée aux États-Unis la même année a conclu que le millepertuis était supérieur au placebo pour soigner la dépression légère ou modérée et qu'il était aussi efficace que les antidépresseurs conventionnels. Selon les auteurs américains, on peut donc le considérer comme un remède de première ligne. Les oméga-3. Il s'agit d'acides gras polyinsaturés que le corps ne synthétise pas lui-même. Comme l'expliquaient en 2020 les auteurs d'une méta-analyse, il influencerait l'activité des neurotransmetteurs et le processus inflammatoire. Certaines études ont montré que les personnes avec une dépression majeure avaient des niveaux plus faibles d'oméga-3. Une autre méta-analyse réalisée en 2021 a toutefois conclu qu'il n'existait pas assez de données de qualité pour déterminer l'efficacité des suppléments d'oméga-3. La S-adénosylméthionine, SAM-E, il s'agit d'un dérivé de la méthionine, naturellement présent dans le cerveau, expliquaient en 2016 les chercheurs canadiens. Cette substance jouerait un rôle dans certains mécanismes biochimiques associés à la dépression, ajoutaient les auteurs d'une revue systématique publiée en 2020. Des données soutiennent son utilisation comme traitement complémentaire, mais la situation est moins claire pour son emploi seul, notaient les scientifiques américains en 2021. Le safran. L'effet antidépresseur du safran se ferait par la régulation de la sérotonine, de la dopamine et de la norépinéphrine, expliquaient en 2021 les chercheurs américains. Une méta-analyse réalisée en 2020 a montré que le safran était plus efficace qu'un placebo et aussi efficace que les antidépresseurs traditionnels. Selon les auteurs, il s'agirait d'un traitement alternatif à envisager pour la dépression légère ou modérée. Le L-méthylfolate. Cette forme active du folate est impliquée dans la production de sérotonine, de norépinéphrine et de dopamine. Parce que les niveaux de folate sont bas chez certaines personnes souffrant de problèmes de santé mentale, le L-méthylfolate pourrait être considéré comme un traitement complémentaire aux antidépresseurs. La FDA l'a approuvé pour le traitement de la dépression, note l'Alliance nationale pour la santé mentale sur son site. Les études sont toutefois petites et hétérogènes, remarquaient les auteurs d'une méta-analyse publiée en 2015. Au Canada, l'article 3 de la loi sur les aliments et drogues interdit d'afficher sur l'étiquette des produits de santé naturelle ou des médicaments en vente libre qu'ils peuvent traiter la dépression. Aux États-Unis, aucun de ces produits n'est approuvé pour lutter contre les symptômes dépressifs par l'Agence américaine des aliments et médicaments, FDA. Des risques. Il faut rappeler que « naturel » n'est pas synonyme de « sécuritaire ». Plusieurs produits de santé naturelle comportent un risque lorsqu'ils interagissent avec des médicaments, rappelait en 2024 le NIMH. Par exemple, la combinaison du millepertuis avec les antidépresseurs peut causer des effets secondaires dangereux et même provoquer des psychoses, selon le NIMH. La S-adénosylméthionine peut déclencher pour sa part des épisodes de manie chez les gens bipolaires, ajoutaient les auteurs de la méta-analyse réalisée en 2020. Enfin, dans un texte sur le millepertuis, le NCCIH insiste sur le fait que la dépression est une maladie sérieuse. Une personne qui se sent déprimée devrait consulter un professionnel et ne pas essayer de se traiter elle-même. Verdict. Certains produits naturels pourraient avoir un effet sur les symptômes dépressifs. Toutefois, la recherche est insuffisante pour les recommander comme traitement, sauf rares exceptions. De plus, ces produits peuvent causer de graves effets secondaires, spécialement dans leurs interactions avec les médicaments. C'était « Non, l'efficacité des produits naturels contre la dépression n'a pas été démontrée ». Un texte de l'agence Science Presse paru dans Bel Âge.
À la rescousse du côlon irritable. Un texte de Catherine Enfield paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Manon Beausoleil, une lectrice, demande « Outre un régime astreignant, n'y a-t-il rien à faire pour améliorer les symptômes du côlon irritable ?» Trois approches. Oui, répond le docteur Michael Bouin, chef du service de gastro-entérologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM. Il y a trois approches possibles, dit-il, nutritionnelle, psychologique et médicale. Mon conseil, c'est d'abord de ne pas croire au miracle, puis de comprendre que, si on ne fait pas les trois approches, on n'arrive pas à traiter correctement le côlon irritable, dit le docteur Bouin, également professeur à l'Université de Montréal. C'est un trouble multifactoriel et le concevoir uniquement dans un modèle biomédical serait une erreur, estime la psychologue de la santé Séverine Hervouet, chargée d'enseignement clinique à l'Université Laval. Faisons d'abord le point sur ce qu'est le côlon irritable, aussi appelé syndrome de l'intestin irritable ou SII. C'est un syndrome, donc un ensemble de symptômes qui touche environ 12% de la population. Les gens qui en souffrent ont des douleurs abdominales chroniques associées à de la constipation ou de la diarrhée ou encore à un mélange des deux. Aucune cause anatomique n'a été identifiée. Pour établir le diagnostic, il faut exclure d'autres maladies connues comme la maladie cœliaque, des maladies inflammatoires de l'intestin ou encore des intolérances alimentaires, au lactose par exemple, indique le docteur Boin. Intestin-cerveau. Dans le SII, l'intestin est hypersensible, tant à l'alimentation qu'au stress. D'où vient cette hypersensibilité? Parfois, on trouve des micro-inflammations, mais pas toujours, indique le docteur Michael Boin. En fait, le SII est considéré comme un trouble de l'interaction intestin-cerveau. Faire fonctionner un intestin nécessite un échange constant d'informations avec le système nerveux central, explique le chercheur. Ces échanges sont le plus clair du temps inconscient, sauf par exemple quand on ressent la faim ou lorsqu'on a envie d'aller aux toilettes. Peut-être que, dans le côlon irritable, les informations qui devraient être stoppées dans la moelle, par exemple, ne le sont pas et vont transiter plus loin jusqu'au cerveau, illustre le docteur Boin. Irritants et habitudes. Faut-il absolument adopter un régime astreignant? La nutritionniste Hélène Baribeau accompagne des gens aux prises avec des problèmes gastro-intestinaux et non, dit-elle, ce n'est pas un passage obligé. En première ligne, on regarde les irritants de base comme la caféine et l'alcool et les habitudes alimentaires qui peuvent augmenter les symptômes, explique-t-elle. Des exemples? Manger trop ou trop rapidement, sans prendre le temps de mastiquer. Sauter des repas ou des collations. Ne pas s'hydrater suffisamment. Manger trop gras. Manger en excès des fibres d'une même catégorie. On applique les principes de l'alimentation intuitive, en pleine conscience, résume Mme Baribeau. Si ça ne suffit pas, c'est là qu'on va tenter l'alimentation faible en FODMAP, poursuit Hélène Baribeau. Les FODMAP, un acronyme anglais, sont des glucides qui peuvent être mal absorbés dans le petit intestin et qui fermentent dans le côlon. Une personne qui n'a pas le SII pourrait aussi avoir cette fermentation, mais la différence, c'est que ça ne lui fera pas mal, illustre la nutritionniste. Les aliments courants riches en FODMAP sont le blé, l'oignon, l'ail, les légumineuses, le lait et le yogourt, ainsi que certains fruits et légumes. La diète comporte trois phases. On réduit les FODMAP, on fait des tests, puis on réintroduit ceux qui n'ont pas provoqué de réaction. Rigoureuse ou souple? Est-ce une diète restrictive? Oui et non, selon Hélène Baribeau. Il y a plus d'aliments qu'on peut consommer que d'aliments qu'on ne peut pas consommer, fait-elle remarquer. On peut appliquer l'approche FODMAP de façon rigoureuse, avec des aliments qu'on enlève et d'autres qu'on peut consommer dans des portions précises. Mais on peut aussi le faire avec souplesse, souligne Mme Baribeau. Par exemple, on va recommander l'approche souple chez ceux qui ont peut-être un trouble alimentaire actif ou passé, ou qui ont trop fait de régime, indique-t-elle. L'idéal, c'est d'être accompagné par un nutritionniste qui s'adaptent aux besoins des gens, à leurs symptômes et à leurs maladies, conseille le docteur Michael Boin. La nutrition, ce n'est pas du tout les recettes qu'on trouve sur l'Internet et qui savent tout pour tout le monde, résume-t-il. Ce qu'il faut éviter, dit-il, ce sont les régimes trop restrictifs qui peuvent être négatifs sur le plan nutritionnel. Des personnes sortent d'ailleurs du bureau d'Hélène Baribeau avec la recommandation de manger une plus grande variété d'aliments. Quand ils ne sont pas accompagnés, des gens peuvent développer une peur de manger, de l'isolement, constate Mme Baribeau. Vous écoutez « À la rescousse du côlon irritable », un texte de Catherine Enfield, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Pas de dualité. En quoi l'approche psychologique peut-elle contribuer au traitement? Après tout, les symptômes physiques sont bien réels dans le SII. Le premier piège à éviter, c'est la dualité psychologique et physique. Ça marche ensemble. On ne peut pas les séparer, répond d'emblée la psychologue Séverine Hervouet. En psychologie, explique-t-elle, on travaille notamment sur la gestion des émotions liées aux symptômes physiques. Ce n'est pas de dire qu'il n'y aura plus de symptômes. C'est plus d'apprendre à composer avec les symptômes qui sont là pour que la vie goûte meilleure, finalement. Défocaliser. La gestion des émotions a un impact sur la douleur. Si je catastrophise la douleur, il y a fort à parier que l'expérience de la douleur va être amplifiée parce que la douleur partage un terrain commun sur le plan émotionnel dans le cerveau, explique Séverine Hervouet. La thérapie cognitive comportementale, TCC, permet de travailler les pensées et aussi les comportements d'évitement, comme éviter de sortir ou limiter à l'extrême son alimentation. Ces comportements soulagent à court terme, mais ils maintiennent la problématique en place, note Séverine Hervouet. C'est de dédramatiser et de se dire, par exemple, que c'est une douleur temporaire, dit-elle. Et c'est d'oser essayer malgré la peur. La gestion du stress est au cœur de l'approche. C'est documenté. Lorsqu'il est mal géré, le stress agit sur les intestins, rappelle Séverine Hervouet. Il faut trouver la stratégie qui nous convient. L'exercice physique, la marche en nature, la lecture, le yoga. Des études européennes ont montré que l'hypnose fonctionne bien dans le côlon irritable, note le docteur Bouin. Des fois, c'est peut-être un signal que le corps envoie, une occasion de faire des changements dans sa vie, en diminuant ses facteurs de stress et en changeant son alimentation, dit-il. Médicaments. Des gens arrivent à gérer leurs symptômes sans médicaments. D'autres prennent des médicaments en vente libre de façon ponctuelle, mais d'autres encore auront besoin d'un traitement plus soutenu, indique Michael Bouin. Il existe des médicaments pour traiter les symptômes, la douleur, la diarrhée et la constipation. Si ce n'est pas suffisant, on a des médicaments qui vont essayer de s'adresser à l'ensemble du côlon irritable, c'est-à-dire soigner plusieurs symptômes, dit le docteur Bouin. Suppléments. Qu'en est-il des suppléments? Lorsque l'approche nutritionnelle fonctionne moins bien, la nutritionniste Hélène Baribeau suggère des probiotiques, mais pas n'importe lequel, précise-t-elle. Elle conseille BioK+ et Florastor pour les diarrhées, mais pour la constipation, il y en a moins qui sont reconnus. L'enzyme FODZIM, qui aide à digérer plusieurs FODMAP, peut être un outil précieux pour ceux qui les digèrent mal. En fonction de la quantité d'eau qu'on y ajoute, les fibres de psyllium, métamucil, peuvent être utiles autant pour la diarrhée que pour la constipation. Enfin, quelques études suggèrent que les capsules d'huile de menthe poivrée pourraient améliorer les symptômes du SII. C'était, à la rescousse du côlon irritable, un texte de Catherine Enfield, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Michel-Marc Bouchard dissèque la quête d'excellence dans Une fête d'enfants. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Papa de deux fillettes, David et Nicolas, François Arnaud et Yannicko Ndoua Légaré, sont l'incarnation de la réussite esthétique, amoureuse, familiale, professionnelle et sociale. Toutefois, le jour où David croira avoir été vu par sa progéniture en train de commettre un geste indigne de l'excellence hétéronormative à laquelle il aspire, il basculera dans la déchéance. Toujours aussi fin dans son analyse des travers du monde, Michel Marc Bouchard convie le public à une séance de dissection de la beauté dans « Une fête d'enfants », sa nouvelle pièce publiée chez Le Meillac en décembre, avant d'être jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. En 2021, dans ta pièce « Embrasse », tu explorais la beauté du monde parmi les thématiques abordées. 4 ans plus tard, la beauté est à nouveau au cœur de ton écriture. Pourquoi est-ce que cela t'inspire autant? Je pense que la beauté fait partie de la recherche de la perfection. Dans « Embrasse », il y a la recherche de la perfection fabriquée, qui n'est pas innée. On va la construire, ce qui est souvent le propre de l'art. Quand on parle de beauté, tout ça est relatif, on s'entend. Chacun a ses propres paramètres de ce qu'est la beauté en art. Cela dit, il y a du côté de la beauté physique des beautés incontestables. Peut-être que notre cerveau reptilien fait en sorte d'identifier ça comme la perfection. On dirait une beauté innée et reconnue par les autres, qui fait souvent consensus. Mais c'est parfois un cadeau empoisonné. Dans « Une fête d'enfants », tu évoques la quête de perfection et de beauté sans aspérité de plusieurs homosexuels qui essaient de compenser la tare de leurs différences. Comment cela se traduit-il? Je parle des homosexuels qui sont condamnés à l'excellence pour cacher la faille. Chez David, tout ça semble acquis. Il est beau, reconnu comme tel, il a un bel amant et il a réussi sa vie sociale, qui est pour moi une vie extrêmement hétéronormative et non homosexuelle. Autrement dit, il a réussi sa vie parce qu'il s'est un peu effacé dans ses travers pour être plus parfait que n'importe quel hétérosexuel. Quand la pièce commence, il a une blessure d'ego provoquée par sa mère et il va perdre le contrôle de sa vie. C'est une brisure qui se fait étape par étape, qui est basée sur son pouvoir d'être beau. Comme il en est conscient, ça devient sa chute. Tes personnages ont la fin trentaine. Les jeunes générations sont-elles moins touchées par cette réalité? J'en doute énormément. Il y a encore toute une notion d'excellence, peut-être pas autant basée sur des critères hétéronormatifs comme je l'ai connu, mais il n'en demeure pas moins que les homosexuels sont dans une quête d'excellence et d'acceptation, comme si on devait s'excuser. Ce qui nous pousse à essayer d'être les meilleurs en tout, même dans une marginalité qu'on va travailler pour qu'elle soit éclatante. À quel point cela fait-il partie de ton propre parcours de vie? Quand j'ai avoué à mes parents que j'étais homosexuel, j'ai ajouté que j'avais tenté toute ma vie d'être le fils parfait. Comment vous pourriez ne pas m'aimer? Je suis depuis l'enfance votre idole. Cette espèce de course à la perfection reste dans notre ADN. J'aurais pu être un homme d'affaires ou un médecin, et j'aurais réussi. Comme si l'homosexuel n'a pas le droit d'échouer. Ça se traduit dans tous les volets de ma vie, dans les relations humaines, dans la façon de gérer ma maison, mes choix de vêtements. On est toujours dans une quête d'excellence. Dirais-tu que David et Nicolas ont eu des enfants davantage pour correspondre au moule du succès hétéronormatif que par réelle envie d'être parents? Je n'ai aucun doute sur Nicolas et ses intentions de devenir parents. Vers la fin de la pièce, avant l'acte terrible, David reproche à Nicolas de l'avoir emprisonné dans la maison, le mariage et les enfants. David aime ses enfants, car ils sont un miroir pour lui. Mais Nicolas les adore. C'est lui qui s'en occupe le plus. Plus la pièce progresse, plus le portrait de leur famille parfaite se fissure. David croit que l'une de ses filles l'a vu commettre un geste impardonnable. Qu'est-ce qui fait qu'un homme en apparence si confiant craque complètement quand cela se produit? Sa confiance en est une de représentation. Il va commettre à ses yeux l'acte le plus décadent qui peut exister, si cet acte est vu. Il porte lui-même un jugement de dégoût sur ce qui s'est passé, et quand il découvre que les petites candeurs que sont ses enfants l'ont peut-être vu, c'est absolument ingérable pour lui. Pourquoi camper cette situation au cœur d'une fête d'enfants? Ça me permettait d'aller jusqu'au bout de cette espèce d'hétéronormativité sociale. Une fête d'enfants, c'est du social working. Les enfants sont là, mais les parents sont présents pour un autre agenda. Souvent, ils ne se connaissent pas intimement. Autrement dit, les parents entrent dans une zone étrangère. J'avais envie de situer la pièce là, car je trouvais que c'était une zone terrible de danger pour cet acte-là. Pourquoi choisir François Arnault pour interpréter David? Il faut dire que François est parmi mes plus proches amis. Nous avons fait les grandes chaleurs quand il avait 25 ans et on s'est toujours suivis depuis. Il devait être le premier à jouer dans Tom à la ferme au théâtre. On avait cheminé ensemble durant 2 ans sur ce projet, mais il a reçu l'offre de jouer dans The Borgias. Entre un cachet au théâtre d'aujourd'hui et celui d'une grosse série américaine, c'était impossible à comparer. Malgré tout, on voulait absolument faire quelque chose ensemble un jour. Cela dit, le projet est né d'un acteur, Aquiles Pelanda, qui a joué Tom à la ferme en Argentine. Il était une splendeur. Le monde se tournait pour le regarder. On a parlé du narcissisme tous les deux. À partir de là, j'ai commencé à écrire sur un personnage qui découvre le pouvoir de sa beauté. François est incontestablement beau et un grand acteur, mais il n'avait jamais joué un personnage presque mauvais. Je suis sûr qu'il va le rendre humain, mais j'ai hâte de le voir jouer sa déchéance. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire appel à Yannicko Ndoua Légaré pour jouer son amoureux? Ce que j'aime chez Yannicko, c'est qu'il a une véritable douceur. C'est une totale bienveillance. J'avais besoin d'un équilibre dans le couple. Je n'avais pas en tête de mettre en scène un couple multiracial, mais quand j'ai pensé à Yannicko, j'ai tout de suite vu le couple magnifique qu'il allait former sur scène avec François. Pourquoi as-tu choisi Florent Sillot comme metteur en scène de la pièce? J'ai vu son Britannicus. On a fait la beauté du monde à l'Opéra de Montréal. Il y avait déjà une collégialité entre nous. J'aime beaucoup son travail et son approche. On a eu des discussions très sérieuses sur l'homoparentalité. Je trouvais ça intéressant pour les thèmes apportés et l'esthétique. Il y aura quelque chose de presque métaphorique au début et qui progressera vers quelque chose d'hyper réaliste. On est chez Bergman à la fin. C'était « Michel-Marc Bouchard dissèque la quête d'excellence dans une fête d'enfants ». Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 novembre 2024 dans le magazine Fugue.